Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondiblog Centre. www.bondiblogcentre.fr.
Bondiblog Café.
Bondiblog Centre.
Bondiblog Café.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondiblog Centre. On n'en parle pas souvent du bio, de l'écologie, de l'environnement, de l'éducation à l'écologie, à l'environnement et au bio dans nos émissions du Bondiblog Centre. Eh bien, nous allons y remédier dès aujourd'hui grâce à Mathilde, Ginette et Patricia. Bonjour à vous.
Bonjour.
Voilà, pour une émission consacrée à cette thématique, mais vous allez en savoir un peu plus en nous écoutant bien évidemment sur Radio Campus 88.3 ou à l'adresse du Bondiblog Centre. C'est à vous.
Oui, bonjour. Alors, durant cette première quinzaine de juin, c'est le printemps bio. Dans toute la France, les acteurs de la bio se mobilisent pour informer et sensibiliser tous les publics à l'agriculture biologique, mode de production durable, respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Les notions liées à l'agriculture biologique, produire en respectant le sol, l'air, la faune et la flore, commercialiser en circuit court du producteur au consommateur, sont des enjeux de développement durable. Celui-ci est défini comme la capacité à subvenir à nos besoins d'aujourd'hui sans porter atteinte à la capacité des générations futures à atteindre leurs propres besoins. Ce concept de développement durable mobilise ces derniers temps une grande partie de la jeunesse partout dans le monde qui multiplie les grèves scolaires initiées par l'icône Greta Thunberg. Dans ce contexte, nous allons vous présenter dans cette émission une action de partenariat entre une école d'Orléans-la-Source en zone de REP, réseau d'éducation prioritaire, l'école élémentaire Denis Diderot et une maraîchère biologique, Laurence Gérone, installée à Olivet. Cette action de partenariat, menée sur deux matinées le 15 mars et le 21 mai dernier, a été montée par des étudiantes en formation assistante de service social à l'École régionale du travail social à Olivet. Pour vous présenter et témoigner de ce partenariat, sont présents dans cette émission Monsieur Éric Marmet, directeur de l'école élémentaire Denis Diderot à Orléans-la-Source et maître de la classe de CE2-CM1 de 20 élèves qui s'est mobilisé dans cette action. Bonjour Monsieur Marmet. Et Madame Laurence Gérone, maraîchère biologique à Olivet, qui a reçu les élèves sur sa ferme dans le cadre du projet. Bonjour Madame Gérone.
Bonjour.
Et donc ici présentent aussi également les trois étudiants de l'ERTS Olivet, Patricia, Ginette et Mathilde, moi-même, qui avons mené ce projet en partenariat avec Monsieur Marmet et Madame Gérone. Alors l'historique de ce projet. Pourquoi ce projet monté par des étudiants en travail social ? Nous sommes un groupe de 4 étudiantes en deuxième année de formation assistante de service social à l'École régionale du travail social d'Olivet. Nous nous sommes mobilisés autour de ce projet. Rappelons d'abord les fondements du travail social, avec l'une de ses définitions internationales. Le travail social est une pratique professionnelle et une discipline. Il promeut le changement et le développement social, la cohésion sociale, le pouvoir d'agir et la libération des personnes. Dans le cadre de notre formation, nous devons notamment expérimenter le montage de projets collectifs, dans le cadre de l'apprentissage de l'intervention sociale d'intérêt collectif. Intervention collective dans nos métiers qui se veut complémentaire à l'intervention individuelle d'aide à la personne. L'une des définitions de l'intervention sociale d'intérêt collectif selon le Conseil supérieur du travail social est la suivante. Intervention rassemblant les actions collectives donnant aux personnes et aux groupes les moyens optimums permettant de disposer des apprentissages économiques, sociaux et culturels nécessaires à la construction de leur identité sociale et à leur citoyenneté. C'est donc dans ce contexte que nous avons monté ce projet que Ginette va vous présenter dans les grandes lignes.
Bonjour à tous, c'est bien moi Ginette. Donc je vais vous présenter notre projet. Ce projet est parti de constats des valeurs partagées dans notre groupe, la sensibilité à la dégradation de l'environnement et la volonté d'agir pour le préserver, mais aussi la conviction dans la force de l'éducation et la transmission des valeurs aux enfants, futurs citoyens, comme vecteurs de changement pour notre société. Forte de ces valeurs, l'idée de départ autour de notre projet était la suivante. mise en œuvre d'une action de sensibilisation au développement durable vers un public d'enfants, en partenariat avec une école, afin de pouvoir envisager une action sur plusieurs temps avec une même classe. Pour ce faire, en septembre 2018, nous avons contacté 5 écoles élémentaires d'Orléans et nous avons pu identifier l'école élémentaire Denis Diderot du quartier Orléans-Source comme partie prenante intéressée par notre projet. L'école est par ailleurs engagée depuis 2015 dans une démarche d'agenda 21 scolaire en lien avec Orléans Métropole, l'agenda 21 étant un programme d'action déclinant au niveau local des principes du développement durable. Le projet s'est construit autour du souhait du directeur de cette école de répondre à certaines problématiques identifiées. Présence de surpoids chez certains enfants nécessitant une réflexion sur le rapport à l'alimentation et à la nutrition, problématique de respect de l'environnement au sein de l'école et du quartier, et des besoins pour les élèves d'ouverture vers l'extérieur, hors du quartier. Le directeur souhaitait par ailleurs inscrire ce projet dans la continuité et en complémentarité des actions déjà engagées par l'école dans le cadre de l'agenda 21 scolaire. Afin de répondre à ces différentes problématiques, nous avons construit un projet d'action de sensibilisation des enfants articulé autour d'un vecteur support, l'agriculture biologique, et en particulier le maraîchage biologique local. Ce support offrait en effet l'avantage d'aborder de manière transversale les différentes notions à travailler auprès du public enfant. Intérêt d'une alimentation saine et diversifiée, enjeux liés au respect de l'environnement, ouverture vers un monde rural à distance des quartiers urbains. Les deux objectifs principaux recherchés à travers le projet étaient les suivants. Contribuer à la réflexion des enfants et de leur famille à travers l'action conduite auprès des enfants autour de la prise de conscience des enjeux du développement durable, d'une alimentation saine, équilibrée et locale respectueuse de l'environnement. Contribuer au développement personnel des enfants par l'ouverture extérieure contribuer au développement de leur esprit critique et de leur liberté de choix. Le plan d'action réalisé, le projet construit sur ses bases s'est décliné en deux actions principales. Après la classe du CE2 CM1 de M. Marmé, le 15 mars, une action de sensibilisation à l'agriculture biologique avec la présentation de concepts théoriques sur l'agriculture biologique et la dégustation d'un panier de fruits et des légumes bio locaux offerts par le groupement régional de maraîchers bio Val Bio Centre. Le 21 mai matin, une sortie avec les élèves de cette classe sur la ferme maraîchère bio de Laurence Gérone, où les enfants ont pu faire le lien entre la théorie et la pratique du terrain.
Nous souhaitions faire témoigner les deux acteurs à l'œuvre dans ce projet, Monsieur Marmé et Madame Gérone. Avant l'interview de Monsieur Marmé, nous allons écouter des sons que nous avons enregistrés lors de notre intervention en classe le 15 mars matin, donc auprès du public d'enfants.
Bloc Café.
www.bondibloccentre.fr.
Youssef et
Talal.
Suda.
Enzo.
Nassim.
Anwar.
Moi.
Oui.
Rimmel.
Toi.
Moi, c'est Béramel.
Ferrat.
Alors.
Moi.
Oui.
Zaynab.
Chalmata.
Zaynab.
Nada. Chalmata.
Alors, Mathilde, elle nous a un petit peu expliqué les différents fruits et légumes qu'on trouve en hiver. Donc là, je pense qu'il y a des choses que vous connaissez. Alors, je vous écoute.
La pomme.
Oui.
Des radis.
Oui.
Des carottes.
Des carottes.
Des lentilles.
Alors, ce n'est pas des lentilles.
C'est des pois cassés.
Oui, ce sont des pois cassés. Vous connaissez tous?
Oui.
Non.
Oui.
C'est comme une purée. Des oignons.
Des oignons, oui.
Radis noirs.
Radis noirs.
Des pommes de terre.
Des pommes de terre.
Des oignons.
Oui, c'est ce qu'elle a dit. Est-ce que ça, vous savez ce que c'est?
Un navet.
Oui.
Un navet jaune.
Alors effectivement, il y a des navets qui sont jaunes et d'autres qui sont violets. Il y a différentes couleurs.
Il y a plusieurs variétés.
Voilà.
Je crois savoir ce que c'est.
Alors, vas-y.
Ça pique en plus quand tu le
manges.
Dis donc, t'es fort toi.
Topinambour. C'est un vieux légume.
T'en as déjà mangé?
Non.
Non?
Moi j'ai déjà goûté.
T'as déjà goûté? C'est un petit peu sucré.
Ça pique même à l'intérieur, c'est jaune.
Non, ça pique
c'est
pas.
Blanc.
Non, c'est blanc.
Donc voilà, on a 4 saisons. Donc nous aujourd'hui, on vous a ramené des fruits et légumes biologiques de la région. Oui.
On va les goûter.
Alors on va les regarder. On va se mettre tous autour de la table. On va vous allez nous dire ce que c'est et on va goûter certains effectivement.
Vous n'allez pas vous mettre contre la table, sinon on va pas tenir tous ensemble autour de la table. Reculez.
Donc, Monsieur Marmet, votre école est en réseau d'éducation prioritaire. Que signifie être en éducation prioritaire ?
Être en éducation prioritaire, c'est s'adresser à un public où, dont les familles ont des catégories socio-professionnelles défavorisées. Et donc, l'objectif, évidemment, est de donner aux élèves dont nous avons la charge donc, de remplir donc, une ouverture culturelle plus importante et, dans le cas qui nous intéresse, évidemment, développer leur éco-citoyenneté.
D'accord. À propos d'éco-citoyenneté, donc votre école a un écolabel et est engagée dans l'agenda 21 scolaire. Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie concrètement ?
Alors concrètement, c'était tout un travail donc d'équipe, une équipe donc d'enseignants, une équipe évidemment donc d'agents avec les partenaires, donc Orléans Métropole, avec évidemment aussi donc les partenaires donc Éducation nationale, et engagés sur des actions concrètes. Et donc dans notre cas, on avait 32 actions à mener dans différents domaines. Et ces différents domaines reprenaient déjà des choses qui existaient déjà auparavant, évidemment, dans l'école. Et donc des choses nouvelles qui ont été cherchées à être développées, notamment donc sur la citoyenneté, sur évidemment donc tout ce qui est développement donc de l'approche du développement durable, donc du recyclage des déchets, tout ce qui peut concerner une école et donc de ses actions pour le développement de nos élèves.
Selon vous, quelle est l'importance de l'éducation à l'environnement des plus jeunes ?
L'éducation donc pour les plus jeunes est indispensable parce que on se rend compte que c'est tout jeune que l'enfant prend conscience donc de son monde et que tout jeune il a la conscience, non seulement cette conscience, mais en plus la volonté de pouvoir changer les choses parce qu'il est vierge un petit peu de toute idée préconçue et que quelque part on est là pour lui donner des bases de l'esprit critique mais des éléments qui vont lui permettre d'exercer cet esprit critique sur son monde. Et parmi celui-là, c'est voilà, notre planète est là, nous avons des gestes quotidiens, des gestes qui nous paraissent naturels. Est-ce que ces gestes-là sont normaux et est-ce qu'il faut évidemment les conserver ou au contraire en trouver d'autres et donc trouver sa propre voie.
Merci. Quel est le vécu et l'impact des actions Agenda 21 menées dans le cadre pour les élèves ? En termes d'apprentissage.
En termes d'apprentissage, donc évidemment, c'est tout ceci, ça se passe par des gestes quotidiens, donc en premier, qui sont clairement faits, c'est-à-dire évidemment, nous avons une poubelle recyclable, poubelle donc classique pour la cantine par exemple, et avec le travail formidable des agents, c'est donc notamment de mettre en place donc une poubelle pour le compostage, donc et évidemment mesurer le gaspillage alimentaire, parce qu'avant le recyclage et le compostage, il y a évidemment éviter le gaspillage alimentaire. Et donc au niveau de l'impact, je peux juste vous citer peut-être une petite anecdote. Il y a 5 ans, quand on a débuté donc cette action, nous avions donc justement des élèves qui étaient devant la poubelle de la cour de récréation avec des papiers qui étaient par terre, comme ça arrive malheureusement trop souvent. Et donc parmi les 20 élèves de ma classe, il y en avait 20 qui étaient autour de ces poubelles sans aucune réaction. 5 ans plus tard, après 5 ans d'action ou presque, on se retrouve avec 20 élèves toujours autour de cette poubelle en séance de PS. Et là, on en a 5 qui sont autour de cette poubelle en train de dire « c'est pas normal, les papiers par terre, on devrait pas voir ça, non là c'est… » Ils s'indignent. Les 15 autres jouent tranquillement à côté, pas de souci. Et tout d'un coup, il y en a un qui se dit « ah bah oui, mais c'est pas normal », mais il prend le papier et le met dans la poubelle. Donc, tout ça pour vous dire que, au bout de 5 ans, un a mis son papier dans la poubelle. Mais auparavant, il y en avait 0. Et il y en a 5 qui ont pris conscience qu'il fallait mettre peut-être, faire quelque chose. Avant, il n'y en avait pas. Donc voilà, c'est un travail de très longue haleine et je pense que c'est pour ça qu'il faut commencer dès le plus jeune âge.
Je vous propose d'écouter un son que vous avez réalisé justement, où ce sont maintenant les élèves qui font le bilan des apprentissages qu'ils ont retirés de ces ateliers.
Alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?
On a appris que le bio, c'est mieux, parce que après, on avale tes produits chimiques.
Et du coup, bio, il n'y a pas de produits chimiques.
Oui. D'accord. Ce que j'ai appris dans le bio, c'est que je ne savais pas qu'il y avait autant de fruits et légumes bio.
Donc, toute la diversité des fruits et légumes.
Voilà.
Les fruits et légumes qu'il peut y avoir.
Je mangerai plus bio maintenant.
D'accord, super. Alors, vas-y.
J'ai compris que la nature était importante.
Alors, attendez, là, votre petite camarade dit quelque chose qui est important. Si vous pouvez faire le silence pour qu'on puisse entendre.
J'ai compris que la nature était importante.
La nature est importante. Et autre chose ? Oui ?
Faut pas polluer la terre.
Faut pas polluer la terre, oui.
Et les légumes et tout ce qu'on mange.
Très bien, merci.
Bondy Bloc Café.
www.bondybloccentre.fr.
Donc, Monsieur Marmet, je terminerai cette interview en vous demandant, concernant le projet réalisé autour de l'agriculture biologique, quel est, selon vous, l'apport pour les élèves et avez-vous pu le mesurer ?
Alors, l'apport pour les élèves a été très important parce que, du coup, on s'est rendu compte que, dans une première approche d'équipe, on s'était dit qu'il fallait commencer par des gestes qui concernent directement nos élèves et donc les familles. Et le bio nous paraissait un peu lointain. Et finalement, c'est un peu le contraire. Ça veut dire qu'il faut prendre la question du développement durable dans sa totalité. Et qu'à partir de là, vous avez entendu les élèves, ils se rendent compte que finalement, l'impact qu'on peut avoir du moment même où on mange, et donc l'impact qu'on peut avoir pour produire ce que l'on mange. Et toujours sur la suite à la visite, par exemple, donc, de la ferme de Madame Gérone, ils étaient enthousiasmés pour voir donc tous ces animaux, ces insectes, tout ce qui gravitait, toute la nature qui était présente dans ces champs. Donc, moi, je leur avais montré, évidemment, ce qui était l'absence de coquelicots, par exemple, dans des champs qui étaient, eux, par contre, de type industriel. Et c'est aussi donc, la réflexion donc, des accompagnateurs qui étaient avec moi en disant mais oh, ça serait bien comment on peut se procurer etc. alors que peut-être que jusqu'à présent ils ne l'avaient pas envisagé et donc voilà c'est toujours des petites choses qui on espère feront boule de neige.
Merci beaucoup Monsieur Marmet. Donc avant de passer à l'interview de Madame Gérone, je vais vous laisser écouter des sons à la ferme qui ont été enregistrés donc sur le deuxième temps de notre action.
Alors qu'est-ce que je fais comme légumes ? Alors en ce moment, il n'y a rien qu'on peut manger, parce qu'on est au mois de mai, on est encore tôt dans la saison. Donc par exemple, je fais des tomates, on va aller voir les tomates, mais les plants de tomates, ils sont encore comme ça. Il n'y a pas encore de tomates dessus.
Y a-t-il des fleurs ?
Il y a quelques fleurs sur les tomates. Ce qui en ce moment est très en fleurs, on le voit ici, on va s'en rapprocher. Alors, une plante qui fait qui est en fleur en ce moment, et je ne sais pas si vous devinerez ce que c'est. Alors on ne peut pas du tout savoir comment va être le légume. C'est une plante qui est. Alors c'est vert, c'est rond. On n'en mange pas très souvent, mais c'est très bon. C'est des petits pois. Donc ce que vous avez ici, là, c'est des plantes petits pois. Chaque fleur, les fleurs blanches, là, ça va devenir un espèce de tube vert allongé dans lequel il y aura une dizaine de grains de petits pois.
On peut leur dire une gousse, non ?
Une gousse. La terre ici à Olivet, c'est une terre qui est très agréable à toucher. On a l'impression d'être à la plage. Vous voulez en prendre un peu dans vos doigts ?
C'est
ça ne salit pas du tout les doigts parce que c'est une terre, c'est du sable. Olivet, c'est qui veut ça va leur plaire.
Ça salit.
Non, ça ne salit pas, c'est du sable. Comme quand à la plage, vous mettez vos...
Ah oui, c'est du sable. Voilà, du sable marron.
Du sable marron parce qu'il y a quand même un petit peu de la nourriture pour les plantes dedans. C'est vraiment nutritif. Voilà. Et alors, si je voulais vous montrer ce sable, c'est parce que... Quand on est à la plage, c'est très doux. Hein. Quand on est à la plage, il n'y a rien qui pousse sur la plage. Hein. Et ici, du coup, pour arriver à faire pousser des légumes sur le sable, il faut forcément apporter de l'eau. C'est pour ça que vous voyez les espèces de petits arroseurs là. Parce que il faut, quand on a la chance d'avoir des légumes sur du sable, les légumes ils sont contents parce qu'ils sont au chaud, parce que la terre est très douce, parce qu'ils arrivent bien à faire pousser leurs racines. Mais en contrepartie, il faut leur apporter beaucoup d'eau.
Elle est dure, la terre.
Elle est agréable à toucher. Hein.
Ah, trop bien.
Ouais.
Ah oui.
C'est super agréable. Et,
c'est
assez rare. Enfin, ici, à Olivet, on a de la chance, on en a. Mais dans la plupart des champs qui sont dans la région, c'est pas du tout une terre comme ça. C'est une terre qui colle. Si vous auriez de la bouillasse dans les mains. Mais là, ça fait jamais de bouillasse. C'est toujours du sable. La paille, c'est aussi quelque chose qui est agréable à toucher. C'est un peu comme le sable. Et moi, je m'en sers pour une raison... très simple, c'est que sous cette paille, là, j'ai des pommes de terre qui sont en train de pousser. Elles sont protégées et elles sortiront de sous la paille. On va se déplacer un peu plus. Voilà. Vous voyez, là, entre les deux rangs de fèves, j'ai mis un piquet, là, parce que juste là, en dessous, il y a des pommes de terre qui sont encore dans la terre. Elles ne sont pas encore sorties. Mmh. Hein? Donc, il y a des petites tiges qui vont sortir. Ça va faire des belles plantes vertes et sous la paille, il y aura les pommes de terre. J'aurai plus qu'à récolter.
Ça a l'air bon. Voilà.
Toute la longueur, là. Il y aura toute une longueur de pommes de terre.
C'est quoi,
quand les pommes de terre elles seront bonnes à récolter, les fèves, il y a longtemps qu'on les aura mangées. Il n'y aura plus les fèves à ce moment-là.
Non.
C'est-à-dire que comme j'ai une petite surface, il faut que sur chaque petite surface, il faut qu'il y ait beaucoup de plantes qui se succèdent. Donc en ce moment, il y a le... Quelqu'un d'autre veut toucher de la paille ?
Oui.
Moi.
T'en as déjà.
Moi, peut-être qu'elle est plus douce. Elle.
Bon. J'utilise beaucoup la paille. Ça a aussi un avantage. Vous voyez les fèves. Ici, j'ai dû enlever les herbes qui poussaient. Et puis là, j'ai pas besoin d'enlever les herbes qui poussent parce que la paille les empêche de pousser.
Bondy Bloc Café.
www.bondybloccentre.fr
Madame Gérone, donc on a entendu des sons enregistrés lors de la visite de votre ferme avec les enfants. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots ce que sont les principes de l'agriculture biologique ?
Alors l'agriculture biologique, ça répond à un cahier des charges, un certain nombre de points, beaucoup de points, mais le plus important, c'est ce qu'on a dit aux enfants, c'est-à-dire que c'est une agriculture qui n'utilise aucun produit chimique de synthèse.
Ok. Manger bio, de saison, en circuit court, en quoi est-ce un enjeu de développement durable pour la société ?
Tout est important dans le fait de manger bio, de saison et ensuite en circuit court. D'abord en bio, comme on n'utilise pas de produits chimiques, ça veut dire que sous nos champs, la nappe phréatique, on a la chance d'avoir une belle nappe phréatique non polluée comme on a ici au sud de la Loire, au niveau d'Orléans, eh bien, ça veut dire que les eaux de pluie ne vont emmener dans la nappe phréatique aucune molécule chimique et on va préserver l'eau qu'on boit et particulièrement l'eau que boivent les enfants. Moi, ça me désole toujours de voir les mamans qui achètent des litres et des litres de bouteilles d'eau en plastique alors qu'on est à la source et à Olivet sur une belle nappe phréatique avec quelques agriculteurs bio qui travaillent à la préserver. Et puis, donc ça c'est pour l'aspect zéro produit chimique, c'est bon aussi pour la santé de ceux qui consomment nos légumes et nos fruits. C'est bon aussi pour la santé de ceux qui les font pousser. Et puis, le fait de consommer bio et de saison, le fait de consommer des légumes de saison fait que on va forcément consommer des légumes qui auront nécessité peu d'énergie fossile pour pousser. C'est-à-dire qu'on ne sera pas dans un schéma où on va manger des concombres qui auront été dans des serres chauffées, qui auront poussé sur de la laine de verre avec des solutions nutritives, laine de verre qu'il faudra acheter, énergie qu'il faudra payer, il faudra faire venir du gaz, du pétrole. Bon, donc le fait de consommer de saison, c'est déjà une énorme économie du point de vue des énergies fossiles. Et puis, consommer local, ça va avec deux saisons, finalement, parce que si on consomme deux saisons, on ne mange pas de tomates en hiver, donc on n'a pas des tomates qui viennent du Maroc, on ne mange pas de pommes au mois de juin, hein, les pommes du mois de juin viennent d'où ? Elles viennent du Chili. Et donc, là aussi, on va économiser de l'énergie, et puis on va favoriser l'agriculture locale et l'emploi local.
Merci. On va revenir un petit peu sur le projet avec ces enfants. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce projet avec les élèves de l'école de Nididro ?
Eh bien, déjà, j'avais toute confiance en Mathilde puisqu'on avait travaillé ensemble au panier du Val-de-Loire. Hein, donc une belle structure bio. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'aspect d'accueillir une classe de la source. Parce que je pense que les enfants, c'est important et c'est important que non seulement on en parle avec eux, mais qu'ils soient dedans, qu'ils soient les pieds dedans, qu'ils puissent toucher, parce que le contact avec la terre, c'est quelque chose que peu de gens sont maintenant autorisés à avoir. Et moi, je me souviens de quand j'étais petite fille. Quand j'étais petite fille, je faisais pousser des choses dans le jardin de ma grand-mère. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui avait un jardin. Et je pense que le contact qu'on peut avoir avec la nature quand on est petit, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. Donc c'était important pour moi et je rejoins tout à fait ce que disait l'instituteur, le maître d'école.
Monsieur Marmet, vous voulez peut-être ajouter quelque chose à cela ? Je voyais hocher de la tête au propos de Mme Géronne. Vous êtes d'accord avec avec ce constat de l'importance de sentir la terre quand on est petit, d'être en contact avec elle ?
Oui.
Et peut-être l'importance pour vos élèves en particulier, du coup ?
Oui, en effet, il y a une importance qui est énorme parce que c'est l'âge du rêve. Ils ont la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Et donc, du coup, là pour le coup, la métaphore file bien parce qu'ils étaient vraiment là en train de découvrir, vous savez, ce sable pour eux, hein, ce sable marron.
La paille aussi, on a
paille,
vu, ils étaient
etc.
les mains dans la paille, ils voulaient plus la lâcher.
Ils voulaient plus la lâcher, exactement. Et donc, pour eux, c'est quelque chose de concret et des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Moi, par exemple, quand on est rentré dans la jardin 21, on avait 27% des élèves qui ne sortaient pas et aucune activité en dehors de l'école. Et donc là, pour le coup, c'est ce retour à la terre qui semblait déterminant et que Mme Géronne a particulièrement bien mis en œuvre.
Il y a la notion de plaisir derrière tout ça, parce qu'on pense souvent manger, on pense à ce sens qu'est le goût. On a écouté tout à l'heure avec des enregistrements qui avaient été faits en classe aussi la notion de couleur, la notion de forme. La notion d'odeur aussi, évidemment. Les sens aussi, c'est l'éveil de sens. C'est se remettre à prendre plaisir à manger. Et puis, au-delà, justement, de l'aspect gustatif, profiter aussi de l'émerveillement, de l'excitation des autres sens. Madame Géraud.
Oui, et puis on n'a pas eu cet extrait-là dans l'extrait sonore qu'on a entendu, mais il y a eu l'épisode des pucerons qui était très intéressant aussi, parce que le fait de toucher un animal qui pourrait paraître répugnant et puis le voir courir sur son petit brin de feuille, ça aussi, ça crée des sensations, ça crée des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir quand on ne fréquente pas la nature.
Alors, ce que je vous propose, c'est de l'écouter, d'accord, ce petit extrait sur les pucerons, puisqu'en fait, je l'avais mis de côté, mais on va le mettre. Allez, tout de suite.
J'ai une petite bête. Ils ont la bête.
Alors, qui va trouver le nom de cette bête? Là, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être une centaine.
Une mouche. Regardez, j'en ai une.
Non, c'est pas une mouche. C'est
des petites bêtes. Des fourmis.
Non. Regardez bien. Est-ce que ça ressemble à des fourmis?
Un puceron. Un puceron.
Bravo. Ouais.
J'ai trouvé,
c'est quoi?
C'est un puceron.
Ouais. Puceron. Alors les pucerons, il y en a toutes les couleurs, ça c'est du puceron noir.
Alors attendez. Oh, là, peut-être que tout le monde n'a pas écouté, donc du coup, les petites bêtes noires qui sont ici, ça s'appelle comment?
Les pucerons.
Les pucerons, et au fait, qu'est-ce qui... Ah bah non,
elle n'a pas vu.
C'est trop mignon.
Moi aussi j'ai pas vu.
Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondi Blog. Voilà, on a retrouvé l'extrait que vous vouliez qu'on diffuse, c'est bien.
Merci.
Celui-là.
C'est bien celui-là, oui. Ça m'avait... J'étais pas prévu du tout au début, mais bon, je me suis dit qu'ils avaient tellement envie de voir d'animaux, et moi j'ai une ferme de légumes exclusivement, qu'il fallait bien que je leur montre un animal. Voilà.
Les pucerons, c'est pas terrible pour les cultures? Comment on fait alors quand on a des pucerons sur les légumes?
Moi, en début de saison, je suis plutôt ravie d'avoir des pucerons, parce que si le puceron est là en début de saison, tous les petits animaux qui sont présents à Olivet et qui attendent qu'une chose, c'est manger des pucerons, ils vont pouvoir se nourrir en début de saison, et quand ce sera le plein de la saison, ils seront déjà à poste, les larves de coccinelles, les larves de chrysope, tout ça sera à poste pour manger les pucerons de mes tomates et de mes courgettes.
Ce sera...
Elles seront à poste, comme on dit dans l'industrie, on est à poste.
Donc ça veut dire...
Les petites bêtes sont à poste, elles sont prêtes à travailler.
D'accord, merci.
Puis on a vu avec les enfants qu'effectivement il y avait les coccinelles qui allaient effectivement manger les pucerons, et ça a beaucoup intéressé les enfants aussi, ce concept. Et Madame Géraud, du coup, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les apports de ce projet? Qu'est-ce que ça a pu vous apporter à titre personnel, à titre professionnel? Vous en retenez quoi, vous?
J'ai beaucoup apprécié de participer modestement à cette sortie des élèves, cet éveil des élèves. Et puis, indépendamment des enfants, moi, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que, quand j'ai vu la réaction de la maman qui était présente, et ça m'a vraiment confortée dans l'idée qu'il ne fallait surtout pas réserver le bio à ceux qui fréquentent les magasins bio, et qu'il y avait vraiment des pistes à creuser pour faire en sorte que ceux qui pensent que le bio est inaccessible pour eux puissent accéder à des petites fermes, venir cueillir leurs légumes, travailler. Enfin, il y a sûrement des projets à faire avec les mamans et avec les enfants autour de ce sujet.
C'est vrai que nous, dans le cadre de ce projet, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Ça nous fait penser, nous, étudiantes, quand on a un peu pensé ce projet, on a un peu débattu sur le fait, est-ce que pour des enfants qui sont en REP, on va leur parler d'agriculture bio, parce que derrière, on se dit, les parents n'ont pas forcément les moyens d'acheter du bio, même si on sait très bien que si on diminue la part de viande, si on mange de saison, finalement, on peut revenir à un budget modeste. Mais on avait ce débat, et en fait, on s'est dit non. Voilà, les enfants, c'est pas parce qu'ils sont en REP, parce qu'on leur met une étiquette dessus, qu'on va pas leur parler d'agriculture biologique. Justement, on va enlever cette étiquette, et puis on va dire l'agriculture biologique, on va en parler avec tout le monde, c'est accessible à tout le monde. La compréhension des enjeux de développement durable, elle est nécessaire à tout le monde. Et voilà, c'est cette réaction, cette réflexion, on l'a eu au départ, et on s'est un peu auto-censuré en quelque sorte, et puis on s'est dit non. Justement, notre travail à nous en tant que futurs travailleurs sociaux, c'est d'amener ces enjeux de développement durable et cette réflexion auprès de tous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur Marmé.
Je pense que c'est complètement nécessaire à ce niveau-là. On est là justement en REP pour cette ouverture culturelle et donc s'auto-censurer quelque part en disant « ce ne sera pas accessible pour les familles », ce n'est pas vrai. C'est justement cette éducation qui est là pour dire « bah voilà, je peux manger différemment, ça va peut-être me coûter un tout petit peu plus cher mais sur le moment, mais pas forcément, parce que je vais manger donc sur des produits locaux, on peut trouver des produits biologiques tout à fait adaptés à n'importe quelle bourse, mais il faut changer de type d'alimentation, c'est sur lequel aussi on fait, c'est-à-dire pas de produits transformés. C'est ça aussi toute la question. Et donc, il y a aussi tout un travail de nutrition sur lequel il faut qu'on travaille maintenant.
Madame Gironde.
Et pour revenir sur l'accès au bio des familles plus modestes, je pense que il y a vraiment des choses à faire sur notre territoire. Plus il y aura des petites fermes proches des villes, qui sont ouvertes comme ça, qui permettent aux familles de passer, de visiter, peut-être parfois aussi de travailler, parce qu'il faut le dire aussi, l'agriculture biologique, ça consomme de la main-d'œuvre énormément. Mais plus il y aura de petites fermes comme ça, plus les ménages les plus modestes pourront avoir accès au bio. Et là, les politiques ont aussi leur responsabilité à prendre, parce que le foncier, il n'est pas très accessible. Il faut laisser s'installer des petites fermes autour des villes. Voilà.
Oui. Et sur ce sujet, nous, on s'était dit justement cette action-là, on l'inscrit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu voir avec les enfants, enfin, monsieur Marmet, vous le témoignerez peut-être, c'est aussi cette réflexion autour des coûts cachés, c'est-à-dire que l'agriculture intensive qui va polluer les nappes, qui va polluer l'air, ça va faire en sorte qu'il y aura des gros coûts de dépollution des eaux, qui sont des coûts cachés qu'on ne voit pas, qu'on paye de façon indirecte. Et ça aussi, on a essayé de faire passer ce message-là auprès des enfants. Voilà. Je ne sais pas si le message est bien passé, mais on en a parlé avec eux.
Il y en a certains. Alors évidemment, l'impact n'est pas sur tous les élèves, mais il y a un élève qui m'a fait la réflexion en disant c'est meilleur pour la santé. Donc, le coût sur la santé. Il y en a un autre qui m'a dit ça veut dire que on n'est pas obligé de toutes les usines là pour traiter l'eau. Ça sera peut-être pas forcément nécessaire puisque les nappes phréatiques seront plus polluées. C'est des petites choses comme ça, une petite réflexion après qui doit semer, puis on verra ce que ça donnera.
Alors, ouvrir les jardins maraîchers, sortir du quartier, il y a un échange, il y a des allers-retours qui se font de la ville vers la campagne et puis la campagne qui accueille la ville. Quels sont les freins que vous pouvez rencontrer dans ce genre d'action ? Vous en tant qu'enseignant, vous en tant que maraîchère, pour aller plus loin ?
Les freins qu'on peut voir pour ce type d'action, c'est vrai, c'est forcément à un moment donné trouver donc les bons partenaires par exemple pour entrer. On essaye de travailler par exemple avec la mairie d'Orléans, à des programmes par exemple sur le biologique, avec la Sogeresse, mais on est dans le domaine à ce niveau-là restreint. C'est toute la recherche donc d'éducation et de trouver des partenaires. Et là, c'était vraiment une grande chance justement de trouver ce projet justement qui nous permettait donc d'ouvrir à nos élèves sur une ferme et sur donc des partenaires. Juste une petite remarque sur les partenaires, c'est très important pour nous parce que la parole de l'enseignant est ce qu'elle est. Les élèves en sont sensibles, je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait des partenaires qui arrivent, ça montre toute l'importance d'un sujet en particulier. Et c'est pour ça que l'intervention de ce projet-là a été particulièrement bienvenue.
Madame Gironde.
Sur les freins, moi j'ai parlé du frein lié au foncier, qui est que vraiment c'est difficile d'installer. Il y a beaucoup de candidats pour ouvrir des petites fermes comme la mienne. Et c'est quasi impossible de les installer parce que, comme on le dit trivialement, ça spécule à fond les ballons.
Donc le foncier passe en constructible.
Tout le monde a envie de créer un lotissement. Oui, tout le monde a envie. Ça. Donc on a la chance à Olivet d'avoir une zone d'agriculture protégée. Donc toute une zone de plusieurs centaines d'hectares qui ne sera pas constructible. Mais ça a encore beaucoup de mal à passer dans les mentalités. Et les propriétaires de ces parcelles-là sont encore persuadés que c'est qu'un effet d'annonce et que ça ne durera que quelques années. Il va falloir les persuader que non, c'est parti pour au moins 50 ans. Mais c'est difficile.
D'accord. D'autres freins aussi. Vous êtes optimiste ou pessimiste, vous, quant à l'avenir du biologique, de l'agriculture biologique ?
Je vous remercie de cette question parce que vraiment, ça me permet de dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Moi, je serais plutôt pessimiste si on ne fait pas justement ce qui a été fait par Mathilde, là. C'est-à-dire que si on n'ouvre pas...
Et mes collègues.
Et ses collègues, bien sûr.
Je ne suis pas toute seule.
Si on n'ouvre pas les métiers de la terre et le bio aux gens qui sont éloignés, on va tout droit vers, de manière démesurée, ce qui se passe déjà maintenant. On ne s'en rend pas compte, mais ça va nous tomber dessus. C'est-à-dire des gens qui auront les moyens de s'acheter de la bonne nourriture. Et puis d'autres personnes qui achèteront ce qui sort des fermes-usines de Roumanie, qui arriveront en camion, en polluant beaucoup, mais... Et c'est justement ce futur alimentaire à deux vitesses que j'aimerais bien qu'on évite et que les gens prennent conscience qu'il faut encore sauver ce qui reste à sauver, sinon ce sera trop tard, quoi. Quand on sera entièrement dans l'agriculture industrielle, c'est forcément les pays à plus bas coût qui vont la produire, cette agriculture industrielle, et nous on sera avec nos zones commerciales, nos lotissements, et puis on achètera de la mauvaise nourriture, sauf pour ceux qui pourront se le payer.
Moi, je voulais dire simplement au niveau des partenaires, puisque Monsieur Marmet en parlait tout à l'heure, on a quand même eu la chance de s'appuyer sur deux partenaires qui sont BioCentre, donc l'association interprofessionnelle de la filière bio en région centre, qui développe l'agriculture bio en région centre, et puis Val BioCentre, l'association de maraîchers, de producteurs de fruits et légumes bio de la région centre, dont fait partie Laurence Gérone, qui nous a mis à disposition un panier de fruits et légumes pour l'animation en classe, qui nous a permis de nous mettre en lien avec Laurence Gérone, même si, comme le rappelait Mme Gérone, mon passé professionnel l'a permis également. Donc voilà, c'était l'occasion aussi d'appuyer un petit peu sur nos partenaires et ce qu'ils ont permis pour cette action. Et c'est vrai, comme disait M. Marmet, c'est important pour les écoles de s'appuyer sur des partenaires comme ça, prêts à s'engager, en fait, quelque part.
Et une éducation donc nécessaire, si on a bien compris, pour les auditeurs et auditrices qui nous ont bien écoutés, le retour à la terre, pour les enfants, les jeunes, au goût aussi, au sens, aux cinq sens, au plaisir de manger, au plaisir de comprendre aussi d'où vient ce qu'on mange, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a enlevé le carton, le plastique, et puis que c'est conditionné d'une certaine manière, on n'arrive plus trop à savoir ce que c'était à l'origine. Est-ce que, alors vous avez tout à l'heure parlé de conditionnement, est-ce que par exemple vous créez des produits à partir de vos productions, je ne sais pas, des gelées, des compotes ou
Je ne fais pas de transformation voilà. Parce que j'ai une petite production, donc j'ai le plaisir de pouvoir la vendre telle qu'elle. J'essaye de faire des mélanges de légumes. C'est-à-dire que je commercialise l'hiver des mélanges de légumes tout faits pour faire des poêlées et des soupes, mais rien qui soit en conserve. C'est pas que je sois contre la conserve, au contraire, mais je suis trop petite pour accéder à ces outils-là.
Donc nous allons remercier nos invités, donc Monsieur Marmet, directeur de l'école Denis Diderot à la source, et puis Madame Gérone, maraîchère à Olivet. Nous vous remercions également de votre écoute et nous terminerons cette émission par trois citations de penseurs propices à la réflexion autour des enjeux du développement durable. Edgar Morin, sociologue et philosophe français, nous dit « À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgent, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. » Vandana Shiva, physicienne et écologiste indienne, « Sous le masque de la croissance se dissimule en fait la création de la pénurie. » Puis enfin, Gandhi, avocat, dirigeant politique et guide spirituel de l'Inde, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Nous vous remercions.
Si vous avez tous un verre comme ça, ben moi je propose qu'on fasse une tradition bien française, on peut faire santé et en même temps c'est un merci à tout le monde. Donc santé, on lève le verre, santé, et comme ça, ça permet de remercier. Merci pour votre accueil.
Merci.
Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café.